chapitre 3, Scozzoni. Lorsque Benvenuto Cellini arriva en France, François Ier était au château de Fontainebleau avec toute sa cour. L'artiste rencontra donc celui qu'il venait chercher et s'arrêta dans la ville, faisant prévenir le cardinal de Ferrare qu'il était arrivé. Le cardinal, qui savait que le roi attendait Benvenuto avec impatience, transmit aussitôt cette nouvelle à sa majesté. Le même jour, Benvenuto fut reçu par le roi, qui, s'adressant à lui dans cette douce et vigoureuse langue que l'artiste écrivait si bien, lui dit « Benvenuto, passez gaiement quelques jours pour vous remettre de vos chagrins et de vos fatigues, reposez-vous, divertissez-vous, et pendant ce temps nous songerons à vous commander quelques bel ouvrages ». Puis, ayant logé l'artiste au château, François Ier ordonna qu'il ne lui manquât de rien. Benvenuto se trouva donc, du premier coup, au centre de la civilisation française, en arrière à cette époque sur celle de l'Italie, avec laquelle elle luttait déjà et qu'elle devait surpasser bientôt. Aussi Benvenuto voulut-il aller de lui-même au-devant des désirs du roi, en n'attendant point qu'il lui commandât ce bel ouvrage promis, mais en l'exécutant tout d'abord de son propre mouvement et avec ses seules ressources. Il avait remarqué facilement combien la résidence où il avait rencontré le roi lui était chère. Il résolut de flatter sa préférence en exécutant une statue qu'il comptait appeler la nymphe de Fontainebleau. C'était une belle chose à faire que cette statue, couronnée à la fois de chênes, d'épis et de vignes, car Fontainebleau touche à la plaine, sombrage d'une forêt, et s'élève au milieu des treilles. Mais un des grands malheurs de l'artiste, c'est que, tout en ayant en lui-même le sentiment de l'idéal de la beauté, il lui fallut encore, pour la partie matérielle de son œuvre, un modèle humain. Certes, si, comme dans l'Antiquité, comme au temps de Phidias, les beautés du jour étaient venues poser devant l'artiste, Benvenuto eût trouvé dans la cour même tout ce qu'il cherchait. Il y avait là Catherine de Médicis, qui n'avait que 21 ans, Marguerite de Valois, reine de Navarre, qu'on appelait la quatrième grâce, enfin il y avait Madame la Duchesse d'Étampes, que l'on nommait la plus belle des savantes et la plus savante des belles. Mais nous n'étions pas à l'époque de Phidias et Benvenuto devait chercher ailleurs. Il partit pour Paris, où sa première visite fut pour le Primatis. Il signor Francesco Primatice, élève de Jules Romain, sous lequel il avait étudié 6 ans, habitait la France où l'avait appelé François Ier depuis 8 ans. C'était un homme d'une prodigieuse fécondité, d'une manière large et grandiose. On a longtemps méconnu le Primatis, tête encyclopédique, vaste intelligence, talent illimité, qui embrassa tous les genres de la haute peinture. C'était, on le voit, un homme digne de comprendre Benvenuto. Après une première et profonde causerie de 2 amis qui se retrouvent sur une terre étrangère, Benvenuto ouvrit ses cartons au Primatis, lui expliqua ses esquisses et lui demanda où trouver un modèle qui pût remplir les conditions dont il avait besoin. Le Primatis souleva la tête en souriant d'un air triste. En effet, on n'était plus là en Italie, cette fille de la Grèce, rivale de sa mère. La France était à cette époque, comme aujourd'hui, la terre de la grâce, de la gentillesse et de la coquetterie, mais l'on cherchait en vain sur le sol des Valois cette puissante beauté dont s'inspiraient, au bord du Tibre et de l'Arno, Michel-Ange et Raphaël, Jean de Bologne et Andrea del Sarto. Aussi, ce que le Primatis avait prévu arriva, Benvenuto passa en revue l'armée de ses modèles sans qu'un seul lui parût réunir les qualités nécessaires à l'œuvre qu'il rêvait. Alors il fit venir à l'hôtel du cardinal de Ferrare, où il s'était installé, toutes les Vénus à un écu la séance qu'on lui enseigna, mais aucune d'elles ne remplit son attente. Benvenuto était donc désespéré lorsqu'un soir, comme il revenait de souper avec 3 de ses compatriotes qu'il avait rencontrés à Paris, et comme il suivait seul la rue des Petits Champs, il avisa devant lui une belle et gracieuse jeune fille. Benvenuto tressaillit de joie, cette femme était jusqu'alors ce qu'il avait rencontré de mieux pour donner un corps à son rêve. Il suivit donc cette femme prise par la butte des orties, longea l'église Saint-Honoré et entra dans la rue du Pélican. Arrivée là, elle se retourna pour voir si elle était toujours suivie, et voyant Benvenuto à quelques pas, elle poussa vivement une porte et disparut. Benvenuto arriva à la porte, la poussa à son tour, la porte céda, et cela assez à temps pour qu'il vît encore, à l'angle d'un escalier éclairé par une lampe fumeuse, le bout de la robe de celle qu'il suivait. Il arriva à un premier étage, une seconde porte donnant dans une chambre était entr'ouverte, et dans cette chambre il aperçut celle qu'il avait suivie. Sans lui expliquer le motif de sa visite artistique, sans même lui dire un seul mot, Benvenuto, voulant s'assurer si les formes du corps répondaient aux lignes du visage, fit deux ou trois fois le tour de la pauvre fille étonnée qui obéissait machinalement, comme s'il eût fait le tour d'une statue antique, lui faisant lever les bras au-dessus de la tête, attitude qu'il comptait donner à sa nymphe de Fontainebleau. Pour la Bacchante, il avait véritablement trouvé ce qu'il cherchait. Yeux ardents, lèvres de corail, dents de perles, cou bien emmanché, épaules arrondies, taille fine et hanches puissantes. Enfin, les pieds et les mains avaient dans les fines attaches des chevilles et des poignets, et dans la forme allongée des doigts, une teinte d'aristocratie qui décida tout à fait l'artiste. « Comment vous nommez-vous, mademoiselle ?» demanda enfin Benvenuto avec son accent étranger à la pauvre enfant de plus en plus étonnée. « Catherine, pour vous servir, monsieur, » répondit-elle. « Eh bien, mademoiselle Catherine, » continua Benvenuto, « voici un écu d'or pour la peine que vous avez prise. Venez chez moi demain, rue Saint-Martin, hôtel du cardinal de Ferrare, et pour la même peine, je vous en donnerai autant. » La jeune fille hésita un instant, car elle crut que l'étranger voulait rire, mais l'écu d'or était là pour attester qu'il parlait sérieusement. Aussi, après un court instant de réflexion, « À quelle heure ?» demanda Catherine. « À 10 heures du matin. Est-ce votre heure ?»« Parfaitement. Je puis donc compter sur vous. J'irai. » Benvenuto salua comme il eût salué une duchesse et rentra chez lui le cœur plein de joie. À peine rentré, il brûla toutes ses esquisses idéales et se mit à en tracer une pleine de réalité. Puis, cette esquisse tracée, il apporta un morceau de cire qu'il posa sur un piédestal et qui, en un instant, prit sous ses mains puissantes la forme de la nymphe qu'il avait rêvée. Si bien que lorsque le lendemain Catherine se présenta à la porte de l'atelier, une partie de la besogne était déjà faite. Comme nous l'avons dit, Catherine n'avait aucunement compris les intentions de Benvenuto. Elle fut donc étonnée lorsque, après qu'il eut refermé la porte derrière elle, Benvenuto, en lui montrant sa statue commencée, lui expliqua pourquoi il l'avait fait venir. Catherine était une joyeuse fille. Elle se mit à rire, à gorge déployée de sa maîtrise, puis, toute fière de poser pour une déesse destinée à un roi, elle dépouilla ses vêtements et se mit d'elle-même dans la pose indiquée par la statue, et cela avec tant de grâce et de justesse que le maître, en se retournant et en la voyant posée si bien et si naturellement, poussa un cri de plaisir. La séance dura 2 heures. Au bout de ce temps, Benvenuto donna à Catherine son écu d'or, et, prenant congé d'elle avec les mêmes formes que la veille, il lui indiqua un rendez-vous pour le lendemain à pareille heure. Catherine rentra chez elle et ne sortit pas de la journée. Le lendemain, elle était à l'atelier 10 minutes avant l'heure indiquée. La même scène se renouvela, ce jour-là, comme la veille, Benvenuto fut sublime d'inspiration. Le lendemain, le maître et le modèle se retrouvèrent à la même heure, mais par une sensation qu'elle n'avait point éprouvée les jours précédents, au moment où elle se dévêtit, elle sentit que la rougeur lui montait au visage. La pauvre enfant commençait à aimer et l'amour amenait avec lui la pudeur. Le lendemain, ce fut pis encore. Enfin, Benvenuto, après avoir donné la dernière touche à sa statue, remercia Catherine de sa complaisance et lui donna 4 écus d'or. La pauvre enfant laissa tomber l'or de sa main. Tout était fini pour elle. Elle retombait dans sa condition première et, depuis qu'elle aimait le maître, cette condition lui était odieuse. Elle sortit en pleurant. Le lendemain, elle revint, tomba à genoux devant Benvenuto et le supplia de la garder comme servante. Benvenuto avait le cœur artiste, il devina et garda Catherine. Dès ce moment, Catherine ne fit partie de l'atelier qu'elle égayait de sa joie enfantine. C'est ainsi qu'on était arrivé au moment où s'ouvre cette histoire, Benvenuto travaillant, Catherine chantant, Ascanio rêvant et Pagolo priant. Le lendemain du jour où Ascanio était rentré si tard, grâce à son excursion alentour de l'hôtel de Nel, on entendit frapper bruyamment à la porte de la rue. Dame Ruperte se leva aussitôt pour aller ouvrir, mais Scotson, et c'est, on se le rappelle, le nom que Benvenuto avait donné à Catherine, fut en deux bonds hors de la chambre. Un instant après, on entendit sa voix qui criait, moitié joyeuse, moitié effrayée, « Oh mon Dieu, maître, mon Dieu, c'est le roi en personne qui vient pour visiter votre atelier !» Et la pauvre Scotson, et laissant toutes les portes ouvertes derrière elle, reparut toute pâle et toute tremblante sur le seuil de cette boutique où Benvenuto travaillait au milieu de ses élèves et de ses apprentis.